Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Couleur FM 97.1, la radio du Nord-Isère. Vous êtes en compagnie de Gérard et Laurent, comme tous les jeudis en direct à partir de 20h. L'émission, ça s'appelle l'Itinéraire Bis, hein, pour tout savoir sur la musique. Et puis ce soir, on va déborder un peu de la musique, on va parler un peu de littérature, de théâtre, etc. Culture en général sur la région lyonnaise et Rhône-Alpes avec le petit nouveau, là, enfin ça fait déjà quelques années, enfin le numéro 6 de l'Incontournable Magazine avec toute l'équipe réunie autour de notre table. Merci à vous messieurs, bonsoir Laurent, ça va ?
Eh bien et toi-même ?
La forme ?
Toujours.
T'as résolu tes petits problèmes techniques ?
Oui, ça y est.
Pas toujours le jeudi, toi.
Ouais, mais on se bat toujours un petit peu aussi, sinon c'est pas bon.
Allez messieurs, bonjour, bonsoir.
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 On va
bonsoir.
Faire un petit tour, on va se présenter.
Christophe, voilà, responsable du développement, des partenariats et d'une partie du rédactionnel de l'Incontournable Magazine.
Rudy Boissy, donc je m'occupe de rédactionnel et de tout ce qui est relecture du magazine.
Et je suis Philippe Deschemins.
Voilà, donc l'équipe est là.
Une partie de l'équipe est là. Une partie de l'équipe est là. Donc Christophe s'est présenté. Il fait partie de l'équipe rédactionnelle et puis de l'équipe qui s'occupe du développement du magazine. Rudy également.
Donc vous représentez l'Incontournable Magazine. Alors en quoi il est incontournable ce magazine ?
Alors, il est incontournable pour plein de choses. Je voulais juste terminer, en fait, pour dire qu'il n'y a qu'une partie de l'équipe qui est ici. Sébastien Pascot, par exemple, qui s'occupe du graphisme, n'est pas là. Hugues Bérard non plus. Enfin, voilà, on est une partie
Je pense qu'on va débattre après un peu tout ça.
Oui.
On a une heure ensemble,
Oui.
Donc, voilà.
Je t'en prie, donc dis-moi.
Donc, en quoi il est incontournable, ce magazine ?
Il est incontournable parce que, en fait, c'est le seul support qui soit, on va dire, pluridisciplinaire au sens propre. Donc qui parle de tout ce qui touche à la culture au sens large. Il est incontournable parce qu'on essaye de le rendre incontournable en proposant un contenu de qualité, un support qui soit dans la forme attrayant, qui soit joli. C'est là où justement Sébastien Pascot fait un excellent travail dans le cadre de l'élaboration graphique. Donc voilà.
Voilà, donc il est gratuit également.
Il est gratuit, en effet, il est bimestriel, donc ce qui le rend assez unique, puisqu'on est le seul support culturel bimestriel dans la région Rhône-Alpes. Que dire de plus ?
Non, alors pourquoi l'avoir créé ? Parce que vous pensez qu'il y avait un manque dans la région ?
Oui, alors pour aller, on va dire, à la genèse du projet, pour expliquer, nous, le magazine fonctionne en fait édité par une structure qui est une association de 1901. Il s'avère qu'en fait cette association existe depuis 2004 et œuvrait à la base dans le cadre de la promotion des musiques actuelles. Donc on organisait des concerts, on faisait de l'accompagnement d'artistes et au fil du temps on a eu envie d'élargir un petit peu le champ de compétences puisqu'on avait commencé à travailler avec une troupe de théâtre et on a eu l'idée de créer ce magazine en 2008 parce que ça nous paraissait être la formule parfaite pour pouvoir aider autant des artistes que des musiciens, que des comédiens, alors qu'à l'époque on était vraiment cantonné dans une structure et un modus operandi qui n'était pas adapté aux autres formes de culture que la musique. En 2008, donc, on avait commencé à travailler sur l'élaboration de ce magazine. On n'y était pas allé parce qu'on pensait qu'on allait se planter, surtout en fait sur tout ce qui concerne le développement commercial, administratif. Donc on a mis nos activités en stand-by et puis on est revenu aux affaires en 2013 pour pouvoir proposer ce magazine. Et pour répondre de manière très précise à ta question, en effet, il nous semblait qu'il n'y avait pas en Rhône-Alpes de magazine culturel pluridisciplinaire gratuit. Il y avait des magazines de niche, il y a des agendas, on va dire, il y a des choses qui sont de niche, plutôt de niche. Il y a des choses qui concernent le cinéma, qui concernent quasiment que le théâtre, qui concernent plutôt des geeks ou des choses plutôt graphiques pour les enfants.
Plus ciblé, quoi.
Oui, ouais. Nous, on voulait un magazine qui puisse parler à tout ce qui touche à la culture au sens large.
Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives et il y en a beaucoup qui se sont cassés le nez, quoi. Enfin.
Paraît-il. Ouais. Paraît-il.
Donc là, on va en parler par la suite. Donc vous êtes au numéro 6. Ça fait une bonne année que vous tournez.
Oui.
Donc avec le recul maintenant, Vous pensez que vous êtes sur les bons rails?
Oui, il semblerait. Alors nous, on a un peu la tête dans le guidon, donc c'est toujours très très difficile d'avoir un retour, on va dire, objectif sur ce qu'on est en train de faire. Mais comme on est beaucoup à l'écoute, il semblerait qu'on est sur les bons rails. Ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que finalement les gens comprennent. Enfin, nos partenaires comprennent et arrivent maintenant à vraiment voir ce qu'on leur a expliqué au départ sur ce qu'allait devenir ce magazine, ce qu'on voulait en faire. Et on est en train de devenir, on est content parce que beaucoup de gens nous le disent, une forme de référence sur le paysage, on va dire, de la presse en Rhône-Alpes et même un petit peu plus loin d'ailleurs. Donc voilà, mais en tout cas, tous les indicateurs que l'on a sont des indicateurs positifs et qui voilà, semble nous donner l'impression qu'on est sur les bons rails.
Voilà, donc c'est parti pour une heure. On va peut-être, on avait dit, un peu de musique,
oui.
Histoire de
tempérer. Oui. Ouais. Alors, comme tu nous avais donné carte blanche, on a fait une petite sélection de disques. Moi, j'ai reçu récemment un disque d'un groupe qui s'appelle Nao, qui est signé chez Jarring Effect. C'est leur troisième disque qui est éponyme, donc l'album s'appelle Nao. Ils sont passés par un label qui s'appelle Anzen précédemment, qui est surtout connu pour des productions, on va dire, plutôt électro-industrielles. Et là, comme nous on reçoit tout ce qu'on, enfin comme on écoute tout ce qu'on reçoit, on a été agréablement surpris parce que ils sont chez Jarring Effect, donc c'est pas forcément notre tasse de thé musicalement. Et là, c'était un petit coup de cœur. Donc le morceau s'appelle Bansa. Tiré du dernier album de Nao qui sort à la fin du mois, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, vous êtes toujours sur l'itinéraire Obis, sur Couleur FM 97.1. Sachez que vous pouvez également nous écouter sur le net, hein, www.couleurfm.com. Voilà, un site en construction. Donc, toujours avec nos invités donc du magazine L'Incontournable, ou L'Incontournable Magazine, je ne sais pas, on peut le dire dans les deux sens. Hein.
Oui.
Avec donc une petite question comme ça qui me vient. Au niveau du nombre de comment on dit, de l'édition,
de tirage,
pardon, voilà, je cherchais mes mots. C'est l'évolution entre numéro 1 et numéro 6.
Alors, donc pour le numéro 6, on a augmenté notre tirage justement pour faire face à la demande de nos lecteurs et l'augmentation de nos lieux de diffusion. Donc là, on est maintenant à 13 000 exemplaires donc de l'Incontournable Magazine, et le nombre de magazines disponibles ne fait qu'augmenter à mesure que le temps passe. Donc c'est un bon indicateur du succès que rencontre le mag.
Et à augmenter, mais sur la région en fait. Hein. C'est pas parce que vous avez commencé sur Lyon.
Vraiment. Oui, on a commencé sur Lyon et on est présent donc sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes maintenant, avec beaucoup de points sur le Grand Lyon et les Deux-Savoie, mais également en région parisienne et
en région parisienne également.
Et oui. Et donc en Franche-Comté, dans le Doubs, Besançon. Voilà, avec quelques points sur place.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, comme tu disais, au départ, le magazine donc est lyonnais, avec des lieux de dépôt qui sont principalement disponibles dans le Grand Lyon. Et au fil des mois, au fil du temps, ben voilà, on a rencontré du monde. En l'occurrence, on a rencontré il y a quelques mois des gens qui tiennent un magazine qui s'appelle Carnet d'art, à Aix-les-Bains, un magazine qui est distribué dans les Deux-Savoie, l'Isère. Et il s'avère que le courant est bien passé entre nous, et on a essayé d'imaginer de quelle manière on pourrait collaborer ensemble. Et finalement, on s'est dit, bah, pourquoi pas être le distributeur de l'autre, chacun dans sa région. Donc on a eu cette possibilité là depuis janvier de pouvoir être distribué donc dans les Deux-Savoie, Haute-Savoie et Savoie. Donc on a été obligé pour justement alimenter ces lieux de dépôt d'augmenter notre tirage. Donc c'est ce que expliquait Christophe. Et il s'avère également qu'on a eu une demande, on va dire, de la part de lecteurs sur Paris, qui nous a incité à aller voir un petit peu comment ça se passe là-haut. Et donc, on est en train d'installer le magazine là-bas, sachant qu'il y a déjà des lieux de dépôt donc en région parisienne à ce jour.
Donc, il dit tirage supplémentaire, région de plus en plus loin, ça veut dire qu'il faut de plus en plus de recettes. Enfin,
bien sûr. Mmh, comme on est sur un modèle de gratuité, pour le consommateur, celui qui va prendre le magazine, qui va le lire, il faut bien qu'on trouve de l'argent. Donc, nous, on est sur un modèle de financement par annonceur. Voilà.
Et là, ça fonctionne bien ?
Ça fonctionne.
Ça fonctionne, bien sûr.
Ça fonctionne.
Sinon, le magazine ne serait pas là. Ça fonctionne, mais c'est difficile. C'est difficile pour plein de raisons, et souvent des raisons qui ne sont même pas des raisons véritablement objectives. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais nous, on s'est efforcé, quand on a créé ce magazine, d'être sur une optique qui nous oblige à proposer le magazine, on va dire, qui soit le plus attractif possible pour le lecteur. Et dans la gratuité, le lecteur n'est pas celui qui vous ramène de l'argent. Et c'est très très difficile d'arriver à faire comprendre à un annonceur qu'il vaut mieux annoncer dans un magazine qui est lu plutôt que dans un magazine qui n'est pas lu mais qui est là depuis longtemps.
Ah oui, tout à
c'est
fait.
Toute une. Non mais c'est pas forcément évident. Hein. Ouais. C'est pas forcément évident à leur faire comprendre, parce que il y a des vieux réflexes, il y a des habitudes, il y a des connivences, enfin il y a plein de choses qui font que c'est une bataille de tous les jours, mais on est là. On est sur des indicateurs de croissance. On est certainement le seul support média en France, l'un des seuls, on va dire, qui soit sur, on va dire, une courbe de croissance positive. Donc c'est encourageant. Et puis tous les jours, on reçoit des mails, des témoignages de gens qui nous disent qu'ils trouvent le magazine super. Donc nous, ça nous encourage et on continue toujours. On continue, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que la presse écrite, c'est pas le... C'est pas terrible en ce moment, enfin bon...
Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible du tout. C'est absolument pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, il faut savoir que le chiffre d'affaires global, 20% du chiffre d'affaires global de la presse, c'est de l'aide. Donc ça, c'est assez hallucinant. Ouais. C'est 20% du chiffre global, c'est de l'aide. Et ça se chiffre en milliards. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous, dans notre travail, on discute avec des annonceurs, on essaie de leur expliquer, mais vous savez, si la presse est en crise, c'est qu'elle n'est pas lue, quoi. Donc, en quelque sorte, vous financez des choses qui sont en déclin, qui finiront par forcément disparaître. Mais c'est très, très difficile, voilà, de rassurer les gens parce que, comme tu le disais auparavant, il y a plein de magazines qui sont passés par là, qui se sont cassés la gueule. Donc, voilà, on va dire que les gens nous prédisaient le même destin. Et il s'avère que voilà, en luttant, en essayant de proposer le magazine que nous, on aimerait lire, parce que ça, c'est important aussi. Parce qu'on considère nous ce magazine un petit peu comme une œuvre d'art à chaque fois, comme une création artistique en soi, que ce soit au niveau graphique ou au niveau du contenu, parce qu'on fait un effort.
C'est pour ça qu'on a fait attention en fait à la forme, que ça soit un magazine qu'on a envie de garder. Ouais. Donc on le ramène chez soi et puis on peut mettre les 2 mois pour lire ou plus, et on peut le conserver chez soi,
parce que c'est du
le collectionner.
Oui, exactement.
Voilà, on peut le mettre dans une bibliothèque.
Ouais, c'est pas un truc qu'on peut comme le paru vendu là, qu'on peut chiffonner pour ou éplucher les patates dedans.
Voilà, ça sert à ça. Oui, oui.
Et parce que si on fait un bon contenu, on essaie de faire un contenu de qualité, donc après forcément il faut que ça soit mis en avant avec la forme pour que les gens aient envie de le lire. Et
mais moi, je suis bien content de le toucher, etc. Parce que quand je suis allé voir sur le site, vous avez un beau site, hein, l'incontournable magazine. Ben, on a envie de. On se dit, oulala, oui. Là, ça, c'est. Attention. C'est,
mais
ça se voit tout de suite. C'est,
tu sais, moi,
c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais.
Bah, en tout cas, c'est
toujours plaisir.
C'est gentil. Mais je pense qu'il y a une question primordiale, en fait, qui détermine vraiment le sens de ce que l'on fait. C'est faut poser la question à des gens qui travaillent dans un magazine ou qui sont à ta place, ou qui sont dans les médias, c'est poser la question, mais pourquoi vous faites ça? Ben, nous, la question est simple. C'est on a envie d'aider les gens qui bossent dans la culture. On a envie de proposer une alternative culturelle. On a envie d'être une valeur ajoutée. Et pour ce faire, on ne peut pas faire autrement que de proposer un support qui soit attractif. Nous, on n'a pas créé un magazine pour avoir des invitations pour aller à des vernissages.
Ouais.
On s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut être, comment dire, notre mission, elle est remplie quand quelqu'un nous dit « Putain, super, je suis passé dans votre mag » et derrière, on m'a fait des demandes pour aller jouer à tel endroit, pour faire telle exposition, j'ai pu vendre des disques, j'ai pu vendre des bouquins. Et c'est ça qui finalement nous motive, nous. Sinon, on ne ferait pas ça, on ne se prendrait pas la tête parce que c'est un boulot qui est compliqué. On irait postuler, je ne sais pas, bosser dans un grand média pour se pavaner ou je sais pas trop quoi.
Non, puis bon, pour tout dire, vous êtes quand même des artistes, enfin des musiciens ou écrivains ou les deux à la fois. Donc
les deux à la fois.
Donc vous connaissez bien.
C'est justement notre expérience de l'autre côté de la barrière qui a nourri cette envie de créer ce magazine. Là, les autres pourront parler un petit peu de eux, de ce qui les motive plus personnellement. Moi, pour ma part, voilà, je suis musicien, je suis également écrivain. J'en suis pas mon premier support. De presse, puisque quand j'étais adolescent, j'avais créé un fanzine avec un ami qui s'appelait Art Family, qui d'ailleurs après coup on n'avait pas tilté, mais c'était exactement le même type de magazine, quelque chose de pluridisciplinaire. Et c'est vrai que les autres aussi sont de l'autre côté de la barrière.
Ouais, tout à fait. Moi, dans la musique, j'ai toujours été confronté aux médias, que ce soit donc des radios ou des magazines. Et c'est vrai qu'avec nous, on voulait se rapprocher avec un magazine qui soit vraiment d'une très bonne qualité, mais avec qui on puisse échanger. Parce qu'après, il y a des médias, il y a certains magazines, ils nous prennent de haut.
Ils s'en foutent, ils n'écoutent pas de son,
dénombre
de musique. Mais il y en a plein. C'est quand même assez sidérant, souvent. Et tout le monde, tous ceux qui sont un peu spécialistes d'une discipline sont souvent atterrés quand ils regardent une émission ou un magazine un peu généraliste qui parle d'un sujet. Ils disent, mais comment ils peuvent dire des choses pareilles? Enfin, c'est assez. Des exemples, il y en a à l'appel. Ouais. Mais oui. C'est,
Non, mais ils sont obligés de vendre, donc ils sont obligés de parler des groupes les plus connus, etc. Non, c'est ça aussi.
Alors en plus, il y a un problème.
Il y a ce côté-là.
Oui, et puis il y a une forme de structure, on va dire, pyramidale de la validité de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des supports qui sont considérés comme étant valides en termes d'information, et on a souvent plein de petits supports, des magazines, même des magazines assez conséquents, qui finalement attendent la validation d'un support qui est censé être, on va dire, au-dessus d'un point de vue hiérarchique pour aller chercher l'information. Grosso modo, en musique, très souvent, les gens vont chercher l'information, enfin prennent, on va dire, leurs ordres, entre guillemets, chez les Inrock ou pour la télé, dans le grand journal. Et on le voit, hein, c'est quelque chose qui est vraiment vérifiable. Et quand on discute avec des attachés de presse, eh ben, sont confrontés à ça. les médias leur disent ça, leur disent attends, ah bah faut d'abord qu'il ait fait ça ou qu'il soit passé par ce magazine dans cette radio et ensuite il passera chez nous.
Il y a des paliers à, ouais, à franchir.
Oui, mais c'est stupide. Ouais, ouais. Mais c'est juste stupide.
Ils prennent aucune initiative.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et alors qu'en plus le risque c'est zéro. Et nous, dans ce magazine, on peut parler de choses qui sont absolument inconnues et accorder plus de place que des choses qui sont censées être, on va dire, plus intéressantes. Mais c'est, tout ça, c'est complètement voilà. Subjectif.
Ou alors attirer l'œil sur la couverture en mettant une jolie fille en maillot de bain.
Oui.
Vous mettez des boutons.
Des gros titres, voilà.
Oui, puis le fait que ça soit...
à poil, et sans à poil aussi.
Mais... Exactement.
Et le fait que ça soit
pluridisciplinaire.
À poil les nœuds. Le fait que ça soit pluridisciplinaire, avant, quand il y avait des... quand il y a des magazines de niche, eh ben, il n'y a que ceux qui s'intéressent à tel, bah, par exemple au théâtre, qui vont aller lire ces magazines. Par contre, là, on va l'ouvrir, on va regarder notre magazine, on va lire, on va s'intéresser à des articles de musique.
Ouais, ouais.
Et comme on va lire le reste, eh ben, du coup, ça va nous ouvrir aussi sur le théâtre ou d'autres domaines.
Ouais, ça fait une ouverture d'esprit
c'est
plus,
ça,
ouais. plus large.
Finalement, on se dit, tiens, c'est intéressant, ouais. Finalement, je vais aller voir.
Mais vous savez, la spécialisation qu'elle soit de l'ordre scientifique ou qu'elle soit de l'ordre artistique, c'est quelque chose de très très récent. Mais vraiment, c'est à la base, les artistes étaient pluridisciplinaires. C'était à la fois des philosophes, des mathématiciens, des écrivains. Et nous, on aime cette idée que Philippe Laborie appelait les pensées complexes. Pas complexes dans le sens où c'est difficile à comprendre, c'est juste complexe parce qu'il y a plusieurs structures. Un peu comme un complexe sportif où on va avoir plusieurs sports pratiqués, par exemple. Et nous, on aime cette idée-là, cette idée de mélanger les genres, de transdisciplinarité, qui est un terme, d'ailleurs, qui revient un petit peu à la mode.
C'est vrai qu'on a tendance à mettre trop des étiquettes un peu à
voilà,
tout le monde.
Voilà. Mais parce que ça, c'est, en fait, ça facilite la vente marketing. Ouais. Et la seule utilité derrière ça, c'est la vente marketing.
C'est bien français, ça aussi, je pense.
Oui, je pense que malheureusement, comme le marketing est international, c'est des problèmes qui touchent quasiment tout le monde.
Ok, on en revient à la musique, parce qu'on parlait d'un peu de musique. Tu es musicien, chanteur, guitariste, homme à tout faire, dans un groupe qui s'appelle Porn.
Oui.
Qui s'appelait ou qui s'appelle toujours ?
Qui s'appelle toujours Porn.
Vous êtes toujours en tournée ?
Oui, bien sûr. Bah, de toute manière, je pense que ce truc-là ne mourra jamais. À part si moi je m'en vais, par exemple, ou ils trouveront un autre chanteur, ou j'en sais rien. On n'est pas du tout, on va dire, afféodé aux impératifs du marché. Donc, on fait ce qu'on a à faire. C'est une activité qui je l'espère, et puis on sait jamais, mais qui n'est pas voué à s'arrêter. Donc là, on est en train de préparer un nouvel album. On a joué dernièrement en octobre, si mes souvenirs sont bons, à Villeurbanne. On était assez contents. Donc voilà, en effet.
Donc c'est pas perdu.
Ah, c'est jamais perdu. Ah. C'est jamais perdu. C'est quelque chose que je comprends pas, moi, ça, par exemple. C'est jamais perdu. Enfin, soit on est animé par ça, et puis c'est une forme de feu sacré, au sens nietzschéen, ou pas. Et si on le fait parce qu'on attend derrière un retour pécunier ou autre, ou je n'en sais rien, ou on s'imagine qu'on va devenir la nouvelle star de demain, ou voilà. Ah ouais, c'est des choses qui ne nous ont jamais intéressés. Donc on fait ce qu'on a à faire parce qu'on a envie de parler, on a envie de faire de la musique, c'est un dialogue. Donc tant qu'on aura des choses à dire, on le fera. Peu importe le retour, finalement.
En tout cas, c'est bien. On va écouter un morceau, un titre du dernier album,
oui,
je suppose.
Oui, qui s'appelle Love Like War.
trips in this when the lights are on my eyes and real and dear.
Voilà, vous êtes sur Couleur FM, toujours, hein, 97 points, en compagnie de l'équipe de l'Incontournable Magazine, hein, qui vient de sortir le numéro 6, et on vient d'écouter un extrait du dernier album de Porn, hein, qui date de 2011.
C'est ça.
Et donc on attend le prochain.
Voilà, qui devrait sortir, je pense, début 2015. Là, on est en cours d'enregistrement, et ça devrait sortir l'année prochaine.
Ah ben, on aura l'occasion de se revoir, alors que...
Oui, on en aura plein.
On parlait des dépôts donc, dans la région lyonnaise, la région Rhône-Alpes, mais dans le Nord-Isère précisément, c'est où est-ce qu'on peut trouver ce magazine?
Alors on peut trouver donc, l'Incontournable Magazine donc, aux abattoirs, à Bourgoin-Jallieu, enfin à côté de Bourgoin-Jallieu.
La salle de la SMAC, la SMAC les abattoirs.
La SMAC les abattoirs, tout à fait, oui. Qui est un de nos lieux de dépôt officiels.
Donc le seul, le plus, sinon c'est Lyon. Vienne aussi, Vienne.
Vienne, il y a 4 ou 5 lieux de dépôt, ouais, à Vienne. Ouais. Le magazine donc, est gratuit. Et il y a une possibilité en fait, de s'abonner donc, gratuitement, ah, sous oui. couvert de payer les frais de port, et vous le recevez chez vous. Nous, on a beaucoup de gens qui s'abonnent parce qu'en fait, comme il part très très vite sur les lieux de dépôt, et qu'ils n'ont pas forcément envie de se déplacer, qu'ils ne sont pas forcément au moment où il sort dans tel ou tel lieu de dépôt, ils peuvent s'abonner pour le recevoir directement chez eux.
Ok, on va revenir un peu à l'écriture, la littérature. Donc vous faites partie aussi d'un cercle. Justement, c'est la table est ronde, ça tombe bien.
Exactement.
Le cercle de la Boétie, hein, qui est partenaire également de... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de partenariat, si, avec le magazine.
Oui, alors, en fait, dans le magazine, on édite dans chaque numéro une nouvelle. On l'a fait depuis le début. Et le hasard des choses a voulu d'ailleurs que le premier auteur à avoir été édité par l'Incontournable Magazine est Christophe Ramin, et qu'on a la chance ce soir d'avoir Christophe Ramin parmi nous.
Hey.
Et donc du coup, voilà, en fait, on édite une nouvelle à chaque fois. Et donc bah, Christophe peut en parler peut-être du Cercle La Boétie.
Oui, donc le Cercle La Boétie, bah, c'est un cercle littéraire. On pourrait comparer ça à un collectif artistique. L'idée, c'est de... On est parti du constat, en fait, que le travail d'auteur, le travail d'écrivain, est un travail très solitaire. On passe des heures enfermés chez nous, devant l'ordinateur, devant une feuille de papier, à écrire pour au final l'envoyer à quelques amis pour le faire relire, et puis l'envoyer à des éditeurs en espérant avoir un retour. L'idée, c'est de s'entraider, c'est de travailler ensemble, c'est de proposer également... Parce qu'on a quand même des... Au-delà de notre intérêt pour l'écriture, on a des goûts et des intérêts communs d'un point de vue philosophique, on va dire. Et donc l'idée, c'est de, voilà, de travailler ensemble, de s'entraider, et à trois, on est plus fort que tout seul, finalement. Voilà. L'idée, c'est également d'associer d'autres artistes pour pourquoi pas proposer des événements, proposer des rencontres, proposer... proposer des choses sur le paysage et bouger les lignes du paysage littéraire français.
En fait, ouais, le monde littéraire en France est un monde qui est un petit peu sclérosé. C'est-à-dire que quand on est un jeune auteur, c'est très difficile déjà de se faire lire du public. Il faut forcément passer par un intermédiaire qui a souvent les portes fermées à double tour, qui s'appelle l'éditeur. Donc dans le cadre de ce que j'expliquais au départ, qui était vraiment la volonté d'aider tous les gens qui créent des choses, c'était important de vous créer cet espace de promotion au sein du magazine. Donc voilà, c'est ce qui a motivé la création de ce cercle. C'est aussi un cercle de création et de réflexion. Nous sommes invités de temps à autre à animer des tables rondes, à participer à des salons. C'est des choses qu'on fait très 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 volontiers avec plaisir. Donc pour ce qui est de l'actu qui est lié à cela, on a créé un site qui s'appelle cercle-la-boétie.fr, je crois.
Oui,
et
c'est ça.
Sur lesquels on met les tables rondes dans lesquelles on est invité, par exemple. Donc voilà.
Et les en ligne, les nouvelles qu'on édite nous-mêmes.
Vous voulez sortir des sentiers battus un peu et... Un peu comme les itinéraires bis, d'ailleurs.
Mais exactement. Mmh. Je pense qu'il y a, enfin, tout le monde artistique est devenu un énorme parc d'attractions. En fait, où ce qui prime, c'est le divertissement et pas forcément la réflexion. Et la réflexion peut être ludique aussi. C'est ce qu'il faut essayer de refaire comprendre un petit peu aux gens. Et comme nous, on a une vision qui est globale, une vision qui est complexe dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure, dans le sens de l'aborie, l'idée, c'est d'avoir une vision du monde et d'essayer de la partager, d'essayer de la confronter aux gens, aux autres artistes et puis au public qui souvent se révèle être empli lui aussi d'envie de création, mais bridé, on va dire. Donc voilà.
Les prix Goncourt, c'est pas pour vous?
Non, et on s'en fiche. Ah, le ouais, prix Renaudot, vraiment, on s'en fiche, par exemple. Des choses comme Yann Moix, c'est juste à mourir de rire. L'intelligentsia intellectuelle française est une farce, en quelque sorte, mais véritablement. Et quelque part, l'idée, c'est de bousculer un petit peu tout ça, comme on a pu le faire avec l'Incontournable Magazine en soin, dans le monde de la presse. Et puis, nous, on avance parce qu'on est guidé par une seule chose, c'est l'idée de faire ce que nous, on considère comme étant beau, juste et ludique, parce qu'il faut aussi qu'on s'amuse. Et puis voilà, et puis advienne que pourra.
Donc si j'ai bien compris, vous voulez donner un peu des coups de pied dans la fourmilière, comme on dit, pour faire bouger les choses, faire découvrir des talents, des jeunes talents, que ce soit en littérature, au théâtre même, parce que vous faites, il y a quelques articles, à chaque numéro, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a du...
Oui.
C'est toujours axé comme ça. Et vous travaillez comment alors?
Il y a des thèmes aussi qui sont pas forcément dans tous les numéros. Il y a les arts plastiques, on a aussi abordé le sport, l'architecture sur le premier numéro.
L'histoire.
Ouais, l'histoire.
Ouais. Ah oui, le premier numéro, c'était Léa, le Tony Garnier, non?
J'avais rédigé un article sur Tony Garnier.
J'avais l'histoire du vin sur le numéro 4, il me semble.
Oui, l'archéologie du vin.
Dionysos.
Ouais, exactement. Et il y avait la couverture, ouais, c'était l'enivrement de Dionysos. Non, l'idée, c'est vraiment de proposer un contenu rédactionnel qui soit large et qui touche un petit peu à tout. Donc littérature, musique, théâtre, les beaux-arts, les arts plastiques, le graphisme, la BD. On édite de la BD dans chaque numéro également. Donc vraiment, l'idée, voilà, c'est de proposer, puis les gens disposent, quoi.
Et puis il y a plein de petites rubriques aussi où on retrouve, bon, il y a les dates de, on fait un peu la promo, hein. Il y a des dates où on retrouve les dates de concerts, des manifestations de Mediatone, c'est ça?
Oui.
Des abattoirs,
oui.
Eldorado, il me semble.
Voilà. Exactement. Donc en fait, on dans la rubrique du début qui s'appelle les nouvelles du monde libre, voilà, on parle un petit peu de l'actualité, de ce qui va se passer. Donc les choix sont forcément subjectifs. On a une éditoriale. Il y a des choses qu'on a envie de mettre en avant, d'autres un peu moins. Il y a aussi une contrainte d'espace parce que malgré nos 70 pages, on peut pas parler de tout le monde. Faire des choix, c'est renoncer à plein de choses, malheureusement. Donc on essaie de s'accommoder de cela et d'essayer de donner le maximum d'informations à nos lecteurs.
Et ça, c'est le boulot à Rudy, c'est un peu de caler tout ça, non? C'est ça? Non?
Non, pas spécialement. Non. C'est vraiment Philippe qui fait le dernier choix, comme il est rédacteur en chef.
Il donne ça, il dit tiens, débrouille-toi pour ça tienne sur 5 pages.
On est sur du rédactionnel, on propose des sujets. Et après, c'est en fonction, comme il disait, en fonction de l'espace, on peut pas tout aborder, quoi.
Malgré les 70, pages. Ouais.
C'est beaucoup et peu en même temps.
Parce que là, c'est un
bimestriel, tous les deux mois.
Bimestriel, tous les deux mois. Vous allez passer peut-être au mensuel, non?
Pas forcément.
Non.
Pas forcément parce que...
Non, mais s'il y a beaucoup de demandes...
Peut-être qu'on augmentera les pages. En fait, il faut comprendre que la périodicité, elle impacte notre manière d'aborder nos sujets. C'est-à-dire que plus on va être sur des périodicités courtes, plus finalement on va être dans l'écume journalistique. On ne va pas pouvoir aller au fond des choses. Nous, on essaye de prendre le temps, d'essayer de trouver les bonnes idées aussi, pour parler de tel ou tel sujet, et de proposer des entretiens, des articles qui soient longs. Le problème de la périodicité courte, c'est qu'on va être dans une logorée qui nous fait souvent dire des conneries. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que quand on voit les gens qui interviennent assez régulièrement à la télévision, ou à la radio, ou dans des magazines, souvent ils disent le tout à leur contraire. C'est-à-dire que si on suit d'une manière logique le déroulé de ce qu'ils disent, etc., on se rend compte qu'ils rentrent en interaction et en conflit avec eux-mêmes. Et quand on a envie de travailler son contenu, quand on a envie d'élaborer une ligne éditoriale propre, eh bien... Finalement, 2 mois, c'est pas si long que ça. Sachant que c'est 2 mois de sortie, mais en fait, la période de travail, elle est courte parce que derrière, il faut faire du travail de distribution. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, la création du contenu, elle doit être, je sais pas, de 1 mois finalement, hein, un peu moins, ouais.
Dans ces 1 mois,
ouais. Ouais.
Donc, Rudy, je suppose, sur le numéro 7, c'est calé? Non.
Bah, il reste encore quelques petites choses à écrire, mais c'est quasiment calé parce qu'on boucle tout pour le 15. Donc nous, en gros, pour le 10, on a tout, on a fini d'écrire quoi. Moi, je fais les relectures, donc faut que j'ai tous les articles avant pour que je puisse tout relire. Donc
c'est vraiment c'est nouveau là pour vous tout ça, non? Ou peut-être pas pour toi
Non, alors ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, comme on a créé la chose, il a fallu qu'on mette au point les procédés.
Oui, voilà, que vous appreniez un peu.
Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est comme tout, c'est comme toute méthode empirique, hein, c'est-à-dire que voilà, on a des idées, il faut l'expérimenter, on se rend compte que ça, bah, c'était nul, on avait une mauvaise idée, donc on change, on s'adapte, et au fil du temps, on arrive à améliorer la chose.
Et à chacun de trouver sa place.
Voilà. Oui, aussi, et puis trouver comment on fonctionne, créer les modes opératoires et tout ça, c'est assez compliqué. Ça se met en place tout seul, et pour l'instant, on y arrive. Disons qu'on n'est pas. On n'accumule pas la charge, on arrive à l'évacuer au fur et à mesure, donc ce qu'on doit être pas trop mal.
Côté imprimerie, ça se passe comment?
Ça se passe bien. Alors nous, on imprime à l'étranger pour des raisons économiques, puisque les coûts d'impression à l'étranger sont quasiment divisés par 2. Et on fait quasiment comme tout le monde d'ailleurs, puisque en termes de support presse. Voilà, donc on a des délais d'impression qui sont de l'ordre de 10 jours dans ces eaux-là, je crois, de l'ordre de 10 jours. Voilà.
Revenons à la musique.
Oui, alors je crois que la suite s'appelle War Anyway. Alors War Anyway, c'est un groupe de musique qui est assez difficilement classable. On est dans de l'électro un petit peu étrange. C'est un groupe qu'on suit depuis le début, qui se revendique comme étant une œuvre d'art globale.
Que vous avez interviewé déjà?
Oui, non, ouais. Et qui sera également dans le prochain numéro. Ah. C'est un groupe assez spécial, assez secret.
De la région?
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Qui s'appelle donc War Anyway, et le morceau s'appelle Crossing the Rubicon. We'll be right back.
Voilà l'autre facette de Philippe.
Oui.
Philippe, voilà, j'ai perdu le nom. Donc musicien, mais également écrivain. Donc tu as sorti, enfin tu vas, il va sortir bientôt un livre.
Oui. Alors en fait, j'ai écrit un roman. Il y a maintenant, je l'ai fini, je crois, il y a plus d'un an. Enfin, je l'ai fini bien avant qu'on lance le magazine. L'incontournable, ça date il y a plus d'un an. Un roman qui s'appelle Contoyen, qui sortira en avril.
Qui parle un peu de la consommation.
Oui.
À outrance.
Oui. En fait, c'est un ouvrage qui raconte les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Dimitri, qui habite dans un monde en fait où il n'y a pas de misère, pas de famine, pas d'insécurité, et où l'essentiel de l'activité est tourné autour de la consommation et du loisir. Tout le monde en fait touche une allocation mensuelle, et le bon citoyen, qui s'appelle un contoyen finalement, le bon contoyen, celui qui dépense l'intégralité de cette somme à chaque fin de mois. Donc on pourrait penser que c'est un petit peu un monde idyllique, et en fait ce petit gars, ce petit bonhomme qui est un anti-héros, puis qui rate à peu près tout ce qu'il fait, en fait se rend compte que derrière tout ça, en fait, derrière le miroir, il se passe des choses qui sont pas forcément très très folichonnes. Il comprend que si on consomme, il faut bien que quelqu'un produise. Et ils se rendent compte en fait que au-delà de leur petit monde un petit peu de privilégiés, derrière il y a toute une partie de la population mondiale qui est on va dire cette antithèse totale et qui passe son temps à produire, mais que ça. Donc voilà, c'est un roman d'anticipation qui avait pour vocation un petit peu d'essayer d'aller de réactualiser on va dire la pensée orwellienne. Qui est une pensée de l'époque, puisque en fait, ce que lui a imaginé Orwell était forcément et directement en rapport avec l'ère de son temps, puisque l'histoire et les mentalités sont une construction qui se génère au fil des événements qui se déroulent. Donc ce que lui a décrit, c'était le monde de son époque. Seulement le monde que lui a décrit dans les années 30, avec 1984, n'a plus du tout en rapport avec ce que nous on vit aujourd'hui. Et en fait voilà, j'ai essayé de réactualiser ce que moi j'imaginais comme étant on va dire le monde le plus probable et horrible qui pourrait subvenir.
C'est une réflexion sur notre monde actuel. Vous l'avez lu?
Oui. J'ai déjà lu deux fois.
Il fait les relectures aussi,
alors c'est des formations professionnelles.
Ce que j'aime bien dans
il relit tout deux fois.
Justement, je vais en parler, mais ce que j'aime bien dans Contoyen, en fait, c'est une dictature par le confort. C'est un peu ce qu'on retrouve dans notre société. On voit quand même entre les lignes que ça amène une stabilisation de la société. C'est-à-dire que les gens n'évoluent plus, ne se renseignent sur rien, ne sont pas curieux, n'ont aucune connaissance. Enfin, quand on parle des contoyens, la partie consommateur de la société, et quand c'est quand même une critique de notre société actuelle. Enfin, on reste enfermé dans notre confort, on va pas voir ce qu'il y a ailleurs.
C'est la facilité.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai beaucoup lu la littérature d'anticipation et j'ai beaucoup lu également les ouvrages qui traitent de la lutte des classes, le marxiste en général. Et en fait, il s'avère que moi, je me posais la question de qu'est-ce que les dominants attendent de nous. Et je me suis rendu compte que en Occident, en fait, on est un petit peu une anomalie, c'est-à-dire que les dominants ne savent pas trop comment nous prendre. Ils attendent de nous que l'on consomme, et ils attendent de nous que l'on produise. Mais c'est dialectiquement, on va dire, ce sont deux états qui s'opposent. Et dans notre vie de tous les jours, on est tiraillé par ce désir, pas par ce désir, pardon, mais par ces signaux de consommation, donc avec des prêts à la consommation de partout, tout est tourné vers la consommation, et une consommation quasi libidinale qui fera qu'on se sentira bien meilleur, etc. Et de l'autre côté, il faut bien qu'on produise. Puisque qui va pour consommer, il faut bien que cette production soit générée. Et du coup, j'ai imaginé un monde où, on va dire, l'homme parfait, pour le dominant, était l'homme qui n'avait qu'une seule tâche, consommer ou produire. Et donc, j'ai essayé de développer les travers les plus horribles de chacune de ces conditions. Et j'ai été assez influencé par les travaux d'un intellectuel canadien qui s'appelle Norman Baillargeon, dont j'ai eu le privilège d'avoir une préface dans le bouquin d'ailleurs, il a préfacé l'ouvrage, et en fait Norman Balanchon explique que dans les sociétés, on va dire, de type démocratique, la propagande ne passe pas par la violence, on met pas des coups de trick, mais on va chercher le consentement et on va finalement endoctriner avec des systèmes de propagande. Donc j'ai mis en avant tous ces systèmes là dans la zone, on va dire, contoyenne, où il n'y a que des consommateurs, donc il faut finalement qu'ils soient joyeusement endoctrinés. Et de l'autre côté, je suis allé plus du côté, on va dire, de 1984 avec les protoyens, où là c'est une société où les gens sont des esclaves parce qu'il faut qu'ils produisent comme à l'usine, et là par contre c'est le on va dire le mode de mise au pas, c'est les coups de trick. Donc voilà, c'était aussi cette idée là essayer de réactualiser cette histoire de lutte de classe.
C'est pour ça qu'il est gratuit,
le roman?
Non, l'incontournable magazine.
Oui. Non, le roman n'est pas gratuit, malheureusement.
Donc c'est quand même une société de conservation. Il faudra quand même l'acheter pour...
Bien sûr. Mais après acheter des choses, il peut y avoir une forme de consommation, vertueuse.
Quoi.
Oui, réfléchie, oui, vertueuse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une main qui donne, une main qui prend. Ce qui est détestable, c'est l'aliénation. C'est le fait d'aliéner les gens, les rendre, enfin de les mettre en quasi-esclavage.
Ouais. C'est acheter des choses une durée de vie très limitée. Ouais, par exemple, changer de portable ou de smartphone tous les ans, ce que beaucoup font. C'est un peu une aberration, tandis qu'acheter un livre, on va le garder. Acheter un vinyle ou un CD, on va le garder.
De toute manière, voilà. Ça a un coût, donc il faut toujours que ce coût soit répercuté. Il y a une main qui donne, une main qui prend. Ce qui est mauvais dans la consommation, c'est quand on aboutit à l'exploitation de l'homme par l'homme. Moi, concrètement, quand je regarde La Part Dieu, je ne vois pas que les paillettes, je vois la partie cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que pour que nous, on puisse bénéficier de ça, il y a plein de personnes qui sont sous les bombes. C'est un truc qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on passe notre temps en tant qu'occidentaux à déstabiliser plein de pays émergents, c'est pas parce que c'est des méchants. C'est juste que leurs intérêts et nos intérêts vont à un moment s'entrechoquer. Donc, voilà, moi, quand je vois notre richesse, je vois aussi, malheureusement, le coût derrière tout ça.
Et par rapport à ça, j'ai une anecdote en parlant de... avec une personne de certains bouquins, en parlant de Ziegler, qui aborde ce genre de thème. Et cette personne-là me dit « Oh, j'ai pas pu lire en entier, c'était trop horrible, et je préfère vivre avec mes œillères, carrément. »
Ah ouais.
Et finalement, ce qu'on retrouve dans Côtoyen, ce que je disais, c'est un peu l'utopie de ceux qui ont des œillères, quoi, qui veulent pas savoir.
Pour en revenir
Ils vivent dans leur monde, dans leur cocon, et ça leur suffit.
Pour en revenir à l'art et la consommation, c'est pas la même chose d'acheter un bouquin de Hegel, acheter un bouquin de Schopenhauer, acheter une œuvre d'art et acheter un iPad. Quoi. On est sur des modes de consommation qui sont quand même relativement différents et qui apportent pas la même chose.
Quand on voit les gens qui se lèvent, enfin qui font la queue pendant la nuit pour acheter.
Oui, voilà, l'objet est devenu un dieu, hein, c'est une divinité maintenant.
Même en Chine, je crois qu'il y a une famille, ils ont vendu leur gamin pour acheter dernier.
Ouais, ça, c'est normal quand même.
Ça, c'est des trucs de.
Mais la question fondamentale, il faut toujours revenir à des choses très très simples, c'est se poser la question du pourquoi. C'est-à-dire que, par exemple, tu as cité plein de produits différents, la question serait pourquoi on achèterait ceci ou cela. Et les raisons ne sont pas les mêmes. Si on achète un iPad, c'est pas pour les mêmes raisons qu'on va acheter du Hegel ou un album de musique ou autre chose. C'est-à-dire que les produits ne se valent pas. Et on va être pour certains, on va dire, dans du libidinal, et puis dans d'autres, dans la volonté d'apprendre des choses ou de partager des choses. Donc voilà. Mais pour revenir au roman. L'idée c'était d'essayer de décrire le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, un petit peu à l'image de ce que faisaient les encyclopédistes, les humanistes, et puis au siècle des Lumières, c'est aller chercher les travers les plus, agrandir les travers pour mettre en lumière des choses qui peuvent être malheureusement souvent horribles.
Voilà, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de l'incontournable magazine.
Oui.
Alors le choix aussi du titre du magazine, l'incontournable, ça va rester l'incontournable magazine. Et enfin, c'était, il y avait d'autres possibilités de titres.
On avait cherché plein de titres. On avait cherché vraiment plein de titres. C'est vraiment le truc le plus difficile au monde. Choisir un nom le nom de quelque chose. Mmh. Et celui-ci nous était apparu assez rapidement et comme incontournable. Donc du coup, on s'est dit, bah, si ce titre est incontournable, on doit appeler le magazine comme ça. Non, je dis n'importe quoi là, mais non, il changera pas. On voulait un truc un peu punchy, qui soit un peu prétentieux également. Pour aller chercher la réaction aussi de la part des lecteurs ou de nos confrères qui sont souvent bienveillants, faut le rajouter. ça restera comme ça.
Bon, on attend avec on va là, donc il sort le prochain
mars.
On est encore sur le numéro 6,
ouais.
Qu'on peut trouver tout près de Bourgoin, donc à la SMAC Les Abattoirs, qu'on salue. Hein.
Salue aussi d'ailleurs, avec qui on travaille et avec qui on est heureux de travailler.
Vous avez d'autres partenaires importants là pour.
Qu'on aime.
On aime tout le monde.
Ouais, non, mais il y a des gens qui ont été très accueillants. Il y a des gens qui ont été exécrables quand on est arrivé. Ça, on ne va pas se le cacher, ils le savent très bien. Enfin, ils le savent d'ailleurs qu'ils étaient détestables et exécrables. D'autres ont été vraiment, vraiment très, très accueillants. Ont compris ce qu'on essayait de faire avec ce magazine. Qu'on le faisait pour des bonnes raisons, enfin, on l'espère. On allait les voir, ces gens, pour leur vendre de la publicité. Mais ils ont très vite compris que chez nous, la publicité, c'était un moyen et pas une fin. C'est-à-dire qu'on avait besoin de ça pour créer le magazine, mais on ne créait pas un magazine pour vendre de la pub. Ce que beaucoup de supports
font. C'est un paradigme différent, effectivement. Oui.
Ça change tout. Ça a changé tout.
Après, c'est vrai que les annonceurs, c'est culturel. Hein.
C'est pour l'instant.
Mais
pour l'instant.
Non, ça restera. Ça restera.
On va tout faire pour que ça reste, en tout cas.
Mais, je provoque un peu.
Ça le restera. Ça le restera. Et d'ailleurs, on a refusé certaines choses, donc ça le restera. On citait les abattoirs parce qu'on est chez eux. Je pourrais citer d'autres personnes ailleurs, mais j'en oublierai plein, donc ce serait un petit peu, on va dire, non équitable pour ceux que je citerai pas. Mais en tout cas, ceux qu'on remercie vraiment se reconnaîtront, et puis les autres aussi de toute manière.
En tout cas, c'est tous de la pub pour des bonnes causes. On va dire.
Oui, on l'espère. Bah, de toute façon, on a une éthique. Donc, si on se retrouvait avec des choses qu'on ne.
Contradictoires.
Avec nos valeurs, on ne les mettrait pas en avant, c'est évident.
On n'en parlerait pas, effectivement. Oui.
Et nos lecteurs se diraient, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Donc, on essaye, on sélectionne aussi. C'est pas parce qu'on a besoin de publicité qu'on est prêt à baisser notre pantalon pour prendre tout et n'importe quoi. On essaie d'avoir une ligne éditoriale cohérente et une politique commerciale cohérente. Et il y a assez de partenaires potentiels pour qu'on puisse arriver à vivre. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas.
Monsieur le directeur. Comment t'appelles, directeur
Directeur en chef, non ?
Directeur en chef, voilà.
Non, bah, oui, il y a marqué directeur de la publication, parce que d'un point de vue légal, il est obligé d'y avoir un directeur de la publication. Donc il y a ce truc-là, mais grosso modo, c'est rédacteur en chef. Ouais. Ça va un peu rien dire.
Ok, en tout cas, on était ravis avec Laurent de vous recevoir.
Bah, merci.
C'était vraiment incontournable. Vous ne pouvez pas faire autrement
de
vous recevoir. On vous attendra sur d'autres. Ficelle hein, sur la musique, notamment avec Porn, puis peut-être un jour avec Rudy, et pourquoi pas s'il se met à
pourquoi pas.
Mais on sera amené à revenir, parce qu'on va dire on a tous une actualité, qu'elle soit musicale ou littéraire, parce que bah, les autres acolytes, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais écrivent également et ont une activité, donc bah, nous on est ouvert, hein, on revient quand tu veux pour discuter de la pluie et du beau temps.
Merci, allez voir le site hein, l'incontournablemagazine.com.
Oui. .fr.
Et là pour finir, le morceau c'est Afterglow, c'est un groupe de New Lyon qui sort son premier EP, Afterglow, donc voilà.
Très bien, bye bye, merci Laurent.
Merci.
In sorrow.